Est-ce qu'on pourrait fermer le rideau, là aussi, s'il vous plaît? Parce que je vais utiliser presque tout le temps le rétro, donc pour que vous voyez un peu mieux. Alors, je note l'heure, 10h40, pour si possible pas dépasser le temps qui m'est imparti. Alors, bonjour à tous. Le 14 août dernier, j'avais eu l'occasion de partager avec vous quelques pensées sur un psaume, le psaume 110 en effet, comme Jonathan l'a indirectement mentionné, dans lequel il est dit « Assieds-toi à ma droite ». La première partie. Alors, qui vient aujourd'hui? La deuxième partie. Eh bien non. Non, ce ne sera pas la deuxième partie. La deuxième partie, elle viendra dans un mois environ. Il me paraissait important, entre deux, de glisser quelque chose pour mieux comprendre ce que sera finalement le thème de la prochaine fois. Alors, je vais parler de quelque chose que plusieurs parmi nous, dont plusieurs parmi nous se rappelleront peut-être, c'est le tabernacle. Hein? Le tabernacle qu'on avait présenté à Vaine il y a 30 ans de ça. Alors, les moins de 45 ans, ils n'ont aucun souvenir. Et puis peut-être d'autres non plus. Alors, c'est peut-être quelque chose de nouveau pour certains, et puis un rappel pour d'autres. Les différents temples qui ont été construits par Salomon et les autres ne sont qu'une réplique de ce tabernacle. Le mot tabernacle vient du latin tabernaculum, qui veut dire tente, et taberna en diminutif cabane. En hébreu, c'est la mishkan, l'habitation. Le tabernacle est à la fois une réalité et un livre d'images. Alors, on va essayer d'y aller juste. Voilà. Mais le tabernacle n'est pas une invention de Moïse. En fait, lors d'un voyage en Israël, j'avais visité Arad. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. C'est une ville dans le Negev. Et à Arad, on trouve un temple très petit, parce que c'était dans une ville, et une organisation semblable à ce qu'a été le tabernacle. Mais Dieu a donné un modèle à Moïse. Les textes se trouvent dans l'Exode, entre les chapitres 24 et 40. Ça fait à peu près 13 chapitres et demi, 14. Alors, je ne vais pas vous lire tous ces chapitres, vous vous dormiriez entre-temps. Ça sera plutôt une vue générale. Et puis ensuite, nous viendrons sur le Nouveau Testament. En comparaison, le temple de Salomon, dont on trouve une courte description, cela prend seulement un chapitre et demi dans les livres des rois. Cela montre l'importance de ce que Dieu a révélé. Alors nous lisons. Dieu a appelé Moïse et lui dit « Regarde, puis fais d'après le modèle qui t'est montré dans la montagne. Tu dresseras la demeure selon la disposition qui t'a été montrée dans la montagne. » Ça, c'est le début, Exode 25, 26. C'est tout à la fin, Exode 40. « Le 12e jour du premier mois de la deuxième année, la demeure fut montée. » Vous voyez, Dieu, à quelque part, intervient, mais dans le temps. C'est noté dans le temps. C'est très intéressant. Verset 34 et suivant. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre. Hein, Rosemary, elle n'était pas très loin de ce qu'on vient de dire. Et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire du Seigneur remplissait la demeure. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la demeure, les Israélites partaient pour chacune de leurs étapes. Si la nuée ne s'élevait pas, il ne partait pas jusqu'au jour où elle s'élevait. Le jour, la nuée du Seigneur était sur la demeure, et la nuit, il y avait un feu sous les yeux de toute la maison d'Israël à chacune de leurs étapes. Voici une reproduction. Alors, j'essaie de retrouver un certain nombre d'images dedans. Une reproduction de ce que pouvait être le tabernacle dans le désert. Vous voyez une espèce de grande cour qui est là. Voilà. La longueur faisait environ 50 mètres. C'est indiqué en coudée dans la parole. Alors, en gros, 50 centimètres. Et la largeur, ici, faisait 25 mètres environ. Soit une superficie d'environ 1250 mètres carrés. c'est pas beaucoup, un terrain de football, un petit, un énorme petit, c'est 4000 mètres carrés. Donc vous voyez, on est quelque chose qui était finalement relativement assez restreint. Au milieu, vous aviez la demeure proprement dite. On va y revenir rapidement. Autour, c'était les tentes du peuple d'Israël qui étaient réparties dans un ordre tout à fait voulu par Dieu. Ce bandeau, ici, faisait tout le tour de la demeure. On n'était donc pas dans la place du village. Alors, lorsque quelqu'un pénétrait à l'intérieur, il arrivait tout d'abord dans ce qu'on appelle le parvis, un peu comme devant chez nous, le parvis de l'église qui est là devant une entrée. Toute personne recherchant Dieu, que ce soit un homme, une femme, voire une famille, pouvait pénétrer à l'intérieur du sanctuaire dans le parvis. Et il n'y avait qu'une seule porte, qui était celle-là, ce rideau qui était présenté devant. Il fallait soulever et entrer. Sur l'image, on voit un homme avec un animal. On pourrait presque penser qu'il va à la boucherie, mais c'est pas étonnant si on regarde l'image suivante. La première chose que la personne rencontrait dans cette enceinte du tabernacle, c'était un autel de bronze, sur lequel brûlait un feu perpétuel. Qu'est-ce qu'on brûlait? Eh bien, ce que les visiteurs avaient apporté, c'était surtout des animaux, des bœufs, du petit bétail, éventuellement des oiseaux. Cela dépendait de la fortune de celui qui venait. Il apportait un sacrifice, mais ça pouvait être aussi des plantes, des fruits, du blé, résultat des récoltes, bien sûr un peu plus tard, parce qu'on n'imagine pas apporter des fruits quand on est dans le désert, n'est-ce pas? Et là-dedans, sur cette image, on voit des personnes qui s'affairent autour de ce feu. C'était les Lévites, les sacrificateurs, une tribu particulière en Israël, qui étaient chargés d'offrir ces sacrifices. Alors moi, j'imagine qu'il devait y avoir beaucoup, beaucoup de bruit là-bas dedans. Il y avait les hommes qui s'interpellaient, il y avait les animaux certainement qui bêlaient, certains qu'on égorgeait, puis l'odeur du sang qui coulait. Ça ne devait pas être très agréable et très beau. On peut du reste s'étonner d'une telle boucherie. Alors, pourquoi cela? Alors, il y a deux raisons principales. Une première, Dieu avait dit, et il l'est répété quelques fois, « On ne paraîtra pas devant moi les mains vides. » On ne paraîtra pas devant moi les mains vides. Ça veut dire que la bonne conscience, alors comme aujourd'hui, n'est pas suffisante simplement pour s'approcher de Dieu. Il faut autre chose. Et le livre du Lévitique nous renseigne sur différents types de sacrifices. L'un des plus importants, c'est l'Holocauste. Une offrande consumée par le feu, une offrande agréable pour le Seigneur, est-il dit dans Lévitique au chapitre 1. Alors je fais juste ici une petite intervention. Dans un voyage en Israël, notre guide avait dit, on parle de la Shoah comme étant l'Holocauste, hein, ce terme habituel. Elle posait la question, est-ce que la Shoah a été un sacrifice de bonne odeur pour Dieu? Je vous laisse répondre. Vous voyez, parfois on fait des raccourcis, peut-être des journalistes, cinéastes, tout ce que vous voulez, prennent des termes et les mettent un peu n'importe comment ensemble. Non, la Shoah n'était pas une bonne odeur pour Dieu. La notion de reconnaissance, elle était fréquente, mais la question du péché est prépondérante là-dedans. Mais c'est lié tout autant à la notion du pardon. Et c'est très important. Même celui qui s'approchait alors, avec ses sacrifices d'animaux, il était assuré du pardon. Le prêtre fera sur lui, la personne qui vient, l'expiation de son péché et il lui sera pardonné. Et c'est pas la seule fois que c'est dit, à plusieurs occasions. Donc, lorsqu'on considère le culte ancien, on a assez facilement l'image, c'est la loi qui était là, qui nous tuait, etc. et tout. Alors, un aspect oui, mais en suivant les ordres de Dieu, il était là, il lui sera pardonné. Et c'est Dieu qui l'avait dit. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire là derrière qu'on découvre au fond dans ces sacrifices. Et puis finalement, il y a cette constatation terrible, je trouve, cette constatation sans appel que l'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, c'est avec du sang que d'après la loi, on purifie presque tout. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça, c'est une parole de Dieu. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est une parole terrible, terrible. La vie donnée et la vie reprise. Lorsqu'on allait un petit peu plus loin dans la direction de la demeure, il y avait une cuve, une grande cuve, comme vous voyez. Et là, quelqu'un est en train, comme par hasard, de se laver. Vous l'imaginez. Alors, lorsqu'on allait plus loin, le parvis était pour tout un chacun. Mais lorsqu'on allait dans la direction de la demeure, c'était réservé aux prêtres et surtout aux grands prêtres. Et ici, il va accomplir son service matin et soir. Et il doit se laver les mains. Il va entrer ensuite dans la tente. Mais il fallait qu'il soit pur en quelque sorte. La souillure est proscrite dans le tabernacle. Et nous approchons un peu de ce qu'était le tabernacle lui-même, la demeure. Vous voyez, c'est une sorte de grand rectangle. Avec deux parties, cette première qui est la plus grande, qui fait environ 5 mètres, 10 mètres sur 5 environ, qui était le lieu saint. Et vous avez là derrière cette deuxième partie qui fait la moitié de la première, qui était le lieu très saint. Quelle est la différence? Dans le premier, on entre tous les jours. Le sacrificateur, le grand prêtre, entrait deux fois par jour dedans. Tandis que dans le lieu saint, on entrait une fois par an. Et pas n'importe qui, le grand prêtre seulement, personne d'autre n'est autorisé à entrer, le grand prêtre une fois par année. Pourquoi ? Parce que c'était le lieu de la présence de Dieu. Il était recouvert, ce tabernacle, non pas d'un toit en tuiles, ça aurait été difficile de transporter, mais par des tentes. Il y en avait quatre qui étaient superposées les unes sur les autres, et celle d'en dessous, que vous voyez, celle-là, c'était une tente magnifique. C'était une tente vraiment splendide. Et des ouvriers vraiment très au courant ont été appelés pour créer cette tente-là. Il y en avait encore deux par-dessus et la toute dernière qui était en peau de, on ne sait pas très bien, on dit peau de dauphin, on parle de peau de lièvre, enfin, etc. Bref, là, quand c'était fermé, on ne voyait rien du tout de la splendeur de cette tente-là. Et cette tente-là extérieure, si je vous dis qu'elle n'avait rien pour attirer les regards, est-ce que ça vous fait tilt à quelque part? Il n'y avait rien là-dessus pour attirer les regards. Qui pouvait faire le travail là-dedans? Eh bien, c'était le grand prêtre, qu'on appelle aussi le souverain sacrificateur. Alors, on le voit très vieux, peut-être un petit peu comme moi, mais c'est pas très juste parce qu'ils avaient 50 ans, si je me rappelle bien, au maximum. Donc, il devait être un petit peu plus jeune. C'était un descendant d'Aaron. Personne d'autre ne pouvait remplir son service à sa place. Ses habits, comme vous le voyez, on va pas s'y arrêter. J'attire simplement votre attention sur, d'une part, les couleurs qui étaient là, un bleu, quelque chose qui était très beau, qui rappelait peut-être le ciel, et puis des pierres sur lesquelles on avait gravé les noms des 12 tribus d'Israël. Et ce sacrificateur, quand il entrait dans le lieu saint, il portait sur lui, en fait, en quelque sorte, tout le peuple sur son cœur. Et les différentes pierres, on les retrouvera peut-être dans l'Apocalypse à quelque part. Il porte ici un encensoir, parce qu'un de ses rôles était aussi d'apporter des parfums devant Dieu. On viendra plus tard, la prochaine fois, dans un mois, sur le rôle du sacrificateur dans le culte hébraïque, qui est hyper important. Alors on s'approche maintenant, on a passé un premier voile, et on entre dans le lieu saint. Et qu'est-ce qu'on y voit? Tout d'abord, remarquons qu'il est très beau. Normalement, sur le dessus, il y avait la toile qui était du même genre que celle qu'on voit là. C'était très beau dedans. Il y avait beaucoup d'or. Et c'est très étonnant, tout cet or qui était là. Les parois, C'était du bois de sittim recouvert d'or, qui était posé sur des sortes de pieds en argent. Et puis, il y avait ces colonnes qui étaient là, avec un nouveau voile qui nous séparait du lieu très saint. Il y avait trois choses importantes là-dedans. C'était tout d'abord le chandelier, la menorah. Peut-être avez-vous, si vous avez été en Israël, vous aurez vu à quelque part une menorah très très grande. Le chandelier a ses branches qui illuminent ce lieu. Cette branche, peut-être que cela fait tilt en vous, à quelque part, ce chiffre 7. Il était en or battu, et le sacrificateur devait remettre de l'huile, et puis aussi enlever ce qu'il pouvait y avoir qui se déposait. Sur la droite, c'était une table en bois, recouverte d'or également, sur laquelle vous trouviez 2 x 6, c'est-à-dire 2 piles de 6 de pain. Des pains, qu'on appelle les pains de proposition, qui étaient là, remplacés régulièrement. On trouve un épisode dans la parole où il est question de ces pains. Je ne vais pas entrer plus, mais juste le rappeler. David, est-il dit à un moment donné, il a eu faim, et il est entré, et il a demandé s'il pouvait manger des pains qui normalement n'étaient que pour les sacrificateurs, pour celui qui entrait. Là, il y a une exception qui a été faite. Pourquoi 12 ? Peut-être bien les 12 tribus d'Israël, c'est tout à fait possible. Puis peut-être 12 mois dans l'année, peut-être une promesse de Dieu indirecte au travers. La nourriture, demandez, vous recevrez de notre Père, n'est-ce pas? Et là au centre, quelque chose de particulier. Un autel recouvert d'or également, autel sur lequel le sacrificateur, le souverain sacrificateur, grand prêtre, offrait des parfums qui s'élevaient dans ce lieu. Et le modèle de ce parfum ne nous est pas révélé. Il était du reste interdit de le recopier, d'en faire une copie et de quelqu'un pour soi. C'était un parfum unique, un parfum qui montait devant Dieu en bonne odeur. Cela vous rappelle quelque chose ? Et si on allait plus loin, que j'ai oublié de mentionner en pensant à la menorah, on trouve sur l'arc de Titus à Rome, on trouve une reproduction. Lorsque les armées de Titus ont démoli le temple, on voit qu'ils ont pris un chandelier avec, une reproduction de ce chandelier qui était là dans la demeure. Mais en allant plus loin, ben oui, il y avait ce rideau. Un nouveau rideau, c'est déjà le troisième en passant. Pourquoi ? Parce qu'il nous séparait de la demeure de Dieu. Le lieu très saint, ce lieu dans lequel Dieu parlait ou avait parlé, dans lequel Dieu avait dit qu'il faisait son trône. On lit ça dans un psaume. Son rôle essentiel, c'est là que je te rencontrerai, dit Dieu à Moïse. Je parlerai avec toi d'au-dessus de l'expiatoire qui est là, d'entre les 2 kéroubim placés sur le coffre du témoignage. On vient un peu plus en détail. Ça, c'était l'arche de l'Alliance. C'était un meuble, comme vous voyez, avec un coffre dessous, et par-dessus, ce couvercle par-dessus qui avait une fonction particulière. Alors, dans le coffre, tout d'abord, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait 3 choses. Il y avait une urne avec la manne, de la manne dedans, souvenir du désert. Il y avait une verge, la verge d'Aaron, qui avait fleuri tout à coup lorsqu'une constatation. Et puis, les tables de la loi, qui étaient à l'intérieur de ce coffre. Et par-dessus, c'était le lieu le plus important, peut-être le lieu le plus important de tout petit Israël, certainement. C'est ce qu'on appelait le kaporet. On va retrouver ce terme ailleurs. Kaporet, ça veut dire couvrir. Et il y a là-dessus 2 chérubins, parce que les petits chérubins, ce n'est pas tellement biblique, qui regardaient leur face tournée sur ce lieu-là. Pourquoi ? Tout d'abord, les chérubins. C'était une sorte d'ange. On les trouve déjà dans le livre de la Genèse. ayant chassé l'homme, Dieu posta les chérubins, kéroubim, à l'orient du jardin d'Éden, avec la flamme de l'épée foudroyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, les Juifs, dans leur réflexion, etc., ont vu quantité de types d'anges, etc., mais ici, on a quelque chose de tout à fait clair, c'est kéroubim était là, gardien de quelque chose, gardien d'une entrée vers Dieu. On n'entre pas vers Dieu n'importe comment. Et leurs regards, ils étaient tournés constamment vers ce caporette. Ce couvercle, qui était recouvert d'or, comme dit, c'est sans doute le lieu le plus important de tout le tabernacle. Caporette, ça vient d'un mot kofer qui veut dire couvrir. En français, on l'appelle le propitiatoire, qui rend propice, qui rend acceptable. Et du sang était versé dessus une fois par année, une seule fois par année. Quand ? Le jour du Kippour, le jour du grand pardon. On retrouve le mot, n'est-ce pas ? Kippour, caporette. Et cette fête, elle est encore fêtée en Israël, quand même il n'y a plus de temps, rien du tout. C'est fêté le 10 du mois de Tichri. Cette année, ça tombe les 4 et 5 octobre. Le prêtre pénétrait un lieu qui était obscur en principe, peut-être éclairé par la présence de Dieu seul, et il apportait du sang dessus. Sang, pourquoi ? En rémission, demande à Dieu de rémission des péchés pour lui-même et pour le peuple. Il était le seul à entrer là-dedans. La question se posait pour tous. Il est entré dedans, est-ce qu'il va en sortir? Si Dieu n'acceptait pas, eh bien l'homme mourrait certainement. Et c'était donc pas gratuite de s'approcher de Dieu. C'était, je dirais, dans une certaine mesure, dangereux. Donc le prêtre devait offrir pour lui tout d'abord des sacrifices d'expiation, sacrifice de pardon, et pour tout le peuple. Et lorsqu'il ressortait, on peut imaginer le soulagement du peuple. Dieu a accepté. Ça veut dire que Dieu continuera à habiter au milieu de nous. Voilà, on est arrivé au bout du tabernacle. Maintenant, on va le quitter et venir sur le Nouveau Testament. Il y a tout d'abord ce verbe, ce verset extraordinaire que l'on trouve dans Jean 1, 14. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Mais ce texte peut être lu un peu différemment. La parole a été faite chair, c'est-à-dire qu'elle a revêtu nos habits humains, elle n'a pas seulement habité parmi nous. Littéralement, elle a tabernaclé parmi nous. C'est ça que dit le texte, vraiment. Ce n'est pas une simple demeure, Dieu rend visite, et puis voilà. Elle a tabernaclé au milieu de nous. Le verbe utilisé ici en grec ne se trouve, je me suis renseigné vers quelqu'un qui a 2-3 connaissances de grec, ne se trouve que 4 fois dans le Nouveau Testament. 3 fois dans l'Apocalypse, là il est dit que Dieu fait sa demeure avec les hommes, et une fois dans l'évangile de Jean, dans lequel il est dit que la parole, elle est le tabernacle de Dieu. Cette parole qui c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus, en lui-même, il est le temple de Dieu qui était sur terre. Tout ce qu'on pouvait apprendre dans le tabernacle, de ce qu'il était, s'approche, tout ce qu'on peut imaginer qui était là, c'est en lui que se trouve la réponse. Il est en lui-même, Jésus-Christ, ce tabernacle vivant, ce temple que Dieu a envoyé parmi nous, les êtres humains. On va reprendre très rapidement le chemin, tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Je sais bien que j'ai été rapide, mais on n'a pas trop de temps. Alors, pardon, tout d'abord l'entrée. Cet autel des sacrifices qui nous rappelle Jésus, le sacrifice d'expiation. Pour aller à Dieu, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y avait qu'une seule porte, celle-là, et on arrive directement dessus, sur cet autel. Jésus, pas de remplaçant. Jésus, celui qui a fait l'expiation. Il est aussi cette eau qui purifie. On va retrouver plusieurs fois la notion de l'eau dans le Testament. Aussi, dans la première épître de Jean, si nous confessons des péchés, etc., il est fidèle et juste pour nous purifier de tout péché. Et quand on arrive là, on est sur cette croisée. Qu'est-ce qu'on voit au centre? Alors cet autel des parfums, à nouveau. La vie de Jésus en elle-même a été un parfum pour Dieu. On l'avait lu il y a un bout de temps en arrière dans l'évangile de Marc. « Tu es mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai trouvé tout mon plaisir. » De qui est-ce que Dieu peut le dire sur la terre? Personne. Jésus a été le bien-aimé, ce parfum de bonne odeur qui est monté devant Dieu. Et puis la lumière, c'est pas difficile d'imaginer, hein? Jésus, lumière du monde. Il n'y a pas d'autre lumière que celle-là. Et puis les pains, il est le pain de vie, celui qui nous donne cette nourriture. Pour arriver finalement jusque là, au milieu. Lui qui s'est, en quelque sorte, été sacrificateur, il vient jusque là. Il donne sa vie pour nous, non seulement une expiation, mais son sang est là devant Dieu, monte devant Dieu pour rappeler ces hommes, je les ai rachetés. Et c'est valable pour l'éternité. Il y a eu différents temples. Je l'avais mentionné, les temples de Salomon. Il y a eu le premier temple, le deuxième temple. Et vous voyez ici une image de ce qu'était à l'époque de Jésus, ce qu'a pu être, disons, c'est une reconstitution, bien sûr, le temple de Salomon, le temple qui existait, le temple d'Hérode, qui s'élevait plus de 50 mètres de haut. Donc, c'était quelque chose d'immense, quelque chose de fabuleux, quelque chose qui était complètement différent de ce tabernacle un peu misérable qu'on devait transporter, etc. Là, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et on comprend que les hommes étaient très impressionnés par ce qu'ils ont vu. Et pour terminer, je veux lire ce verset. C'était déjà presque midi ce jour-là. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil avait disparu. Et soudain, le voile du sanctuaire, qui sépare le lieu saint du lieu très saint, vous le visualisez, se déchira brusquement par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas. Au même instant, sur la colline située plus loin, un homme poussa un grand cri, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et sur ces mots, cet homme, Jésus, expira. Voyant ce qui était arrivé, le centurion glorifia Dieu en disant « Cet homme était réellement juste. » Une image de ce qu'a pu être un sacrificateur à ce moment-là dans le temple. Il n'était absolument pas préparé à entrer dans le lieu très saint, rien du tout. Et soudain, vous rendez compte, ce voile qui se déchire, on ne sait pas par quelle main, du haut jusqu'en bas, et puis qui ouvre tout grand cette entrée jusqu'au lieu très saint. Je peux imaginer que cet homme, il a dû trembler. Ça a dû être pour lui un choc de se trouver en face de ce lieu très saint, normalement une fois par année, et là, tout à coup, au milieu, si on était à sa place, l'interdit qui est là, et tout à coup, quelque chose se passe, puis on se trouve dans ce qu'on n'a pas le droit de faire. Vous imaginez un peu, peut-être, ce que ça a été pour lui? Moi, j'ai un peu de peine. Mis soudain en présence du lieu très saint, qu'est-ce que le grand prêtre a dû éprouver? Mais aussi, qu'est-ce que cette déchirure, le temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas, signifie pour Israël, mais aussi pour vous, pour moi? Aujourd'hui, le voile est déchiré. Le Seigneur nous aide à entrer dans ce plan. Ce tabernacle est une révélation extraordinaire de Dieu. Jésus, le tabernacle vivant pour nous. J'ai peut-être une minute ou deux, peut-être, on a un peu dépassé l'heure. J'ai essayé de me tenir à l'horaire. Est-ce que quelqu'un aurait une question encore? Peut-être, quelque chose qu'il n'a pas compris, un tout petit complément.
Sinon, je vous rappelle qu'il y aura aussi l'apéro en bas et j'espère que Raymond y sera, où on pourra poser des questions.
Merci, oui. Peut-être une dernière chose que je signale, c'est que l'arche qui était dans le lieu très saint, elle a disparu. Et lorsque les armées de Titus sont arrivées là devant, ils ont dit quoi? Vous adorez un Dieu, il n'y a rien dedans. eux s'étaient remplis d'idoles et de représentations. L'arche, elle a disparu dans les années 580 avant Jésus-Christ, lorsque le premier temple a été détruit. Où est l'arche? On n'en sait rien. Les Juifs disent, vous pensez, bien sûr, vous imaginez qu'on ne l'a pas mise n'importe où. Peut-être qu'elle est en Éthiopie, peut-être qu'elle est ailleurs, on ne sait pas. Un verset dans l'Apocalypse nous dit, et soudain l'arche de l'Alliance parut en son temple. Alors, verrons-nous une fois quelque chose d'extraordinaire? Je ne sais pas. Que le Seigneur vous bénisse.